et bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 20h à Paris, le journal sur RFI.
Mathis Limano.
Au sommaire de cette édition, Vladimir Poutine a appelé son homologue azerbaïdjanais 3 jours après le crash de l'avion de l'Azerbaïdjan Airlines qui a tué 38 personnes. Le président russe s'est excusé auprès d'Ilham Aliyev. Il n'a toutefois pas indiqué si l'appareil avait été ciblé par la défense russe. On se rend à Moscou juste après les titres, rejoint notre correspondant. Le dernier hôpital du nord de Gaza n'est plus fonctionnel, annonce l'OMS. Tous les patients et personnels soignants ont été évacués à la suite d'un raid de l'armée israélienne. Elle affirme qu'il abritait un centre de commandement du Hamas. Le directeur de l'hôpital, suspecté d'être un terroriste, a été arrêté. Et puis, ils sont 18% de plus que l'année dernière. Le record alarmant du nombre de sans-abri aux États-Unis inquiète les autorités. Il s'excuse mais ne reconnaît pas pour autant la responsabilité de la Russie. Vladimir Poutine a appelé Ilham Aliyev aujourd'hui. Il a présenté à son homologue azerbaïdjanais ses condoléances après le crash mortel mercredi d'un avion d'Azerbaïdjan Airlines. Ça s'est passé dans l'espace aérien russe. Jean-Didier Revoin à Moscou.
C'est Vladimir Poutine qui a pris son téléphone pour appeler son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Le président russe s'est alors excusé, non pas d'avoir abattu par erreur cet avion de ligne d'Azerbaïdjan Airlines qui effectuait mercredi la liaison Bakou-Grozny, mais du fait que ce qu'il a qualifié d'incident tragique ait eu lieu dans l'espace aérien russe. Vladimir Poutine a une nouvelle fois adressé ses condoléances profondes et sincères aux familles des victimes. Il a encore souhaité un prompt rétablissement aux blessés, mais le président russe a répété qu'une attaque de drones ukrainiens avait eu lieu sur la capitale tchétchène au moment où l'avion devait y atterrir et que la défense aérienne russe avait tenté de les neutraliser. Pour le moment, Moscou n'a pas confirmé avoir abattu l'avion de ligne. Pour cela, il faudra attendre les conclusions définitives de l'enquête, dont on sait que les résultats préliminaires attribuent la chute de l'appareil à une interférence externe de nature physique et technique. Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
Le président ukrainien a lui aussi appelé Ilham Aliyev. Volodymyr Zelensky lui a présenté ses condoléances et exigé que la Russie fournisse des explications claires. Pour sa part, l'Union européenne appelle à une enquête rapide et indépendante. 38 personnes sont mortes sur les 67 passagers et membres d'équipage de l'avion. Et dans ce contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine, Volodymyr Zelensky refuse la proposition de médiation de la Slovaquie. Son premier ministre a reçu l'ordre de Vladimir Poutine d'ouvrir un deuxième front énergétique, a-t-il dénoncé sur X, après la menace de Robert Fico de couper l'alimentation électrique d'urgence de l'Ukraine. Menace du premier ministre slovaque qui font suite à l'interdiction à partir du 31 décembre du transit de gaz russe via le territoire ukrainien. Le gaz russe dont la Slovaquie est très dépendante. Lors d'une visite surprise au Kremlin il y a une semaine, Robert Fico avait rencontré Vladimir Poutine, provoquant la colère de Kiev. Avec Viktor Orban, le premier ministre slovaque est l'un des rares dirigeants européens à être resté très proche de Moscou. L'armée israélienne annonce la fin de son opération contre l'hôpital Kamal Adwan, situé à Beit Laya. Il était le dernier hôpital opérationnel de la zone. L'armée affirme qu'il abritait un centre de commandement du Hamas. Son directeur, suspecté d'être un terroriste, a été arrêté pour être interrogé. L'hôpital a été mis hors service par le RAID, selon l'Organisation mondiale de la santé. Il est désormais vide de ses patients et personnels soignants. Margaret Harris est porte-parole à l'OMS. Elle s'inquiète du transfert des patients vers une autre structure, l'hôpital indonésien, pourtant déjà détruit par les bombardements.
Une grande partie de l'hôpital a été incendiée et sérieusement endommagée, y compris le laboratoire, les salles d'opération, le département technique et de maintenance, ainsi que l'unité de stockage pour les médicaments. Dans un premier temps, 12 patients et des infirmières ont été évacués de force vers l'hôpital indonésien, mais il faut savoir que ce dernier est déjà détruit et ne fonctionne plus. Il n'y a plus de nourriture, ni d'eau et rien qui permette de soigner des malades. Au moins 15 patients en état critique, 50 soignants et 20 membres du personnel médical se trouvaient encore à l'intérieur de l'hôpital hier soir. Mais selon ce que nous savons, ils ont eux aussi été transférés vers l'hôpital indonésien entre-temps. Mais comme je le mentionnais déjà, cet hôpital ne dispose ni de l'équipement nécessaire, ni d'un approvisionnement pour prendre soin des patients. Nous sommes donc très inquiets pour ces personnes.
very, very concerned about the well-being of those people.
Margaret Harris, porte-parole de l'OMS à Genève avec Heike Schmidt. Le nord de la bande de Gaza, d'où deux projectiles ont été tirés vers le territoire israélien, selon l'État hébreu. Les sirènes ont retenti dans les régions de Jérusalem, Negev et Shfela. Ils ont été interceptés par l'armée de l'air. Et parmi les premières victimes de cette guerre, les enfants, ils représentent plus d'un tiers des victimes à Gaza, près de 18 000, un chiffre dont s'alarme l'UNICEF. L'Agence des Nations Unies pour l'Enfance a publié un rapport ce samedi. Dans le monde, plus de 473 millions d'enfants vivent dans une zone de conflit, soit un enfant sur six, Elisa Robuchon.
Accès entravé aux soins, déscolarisation, malnutrition, les enfants vivant dans des zones en conflit sont particulièrement vulnérables. Plus de 52 millions d'entre eux seraient déscolarisés. Certains peuvent rater des années scolaires comme au Soudan ou dans la bande de Gaza. D'autres n'ont pas accès à l'apprentissage quand leurs écoles ont été détruites par exemple. De plus en plus mal nourris, ils sont aussi plus vulnérables aux maladies comme la rougeole. Environ 40% des enfants non vaccinés ou insuffisamment vaccinés vivent dans un pays touché par un conflit. Dépression, cauchemar, troubles du sommeil, leur santé mentale est aussi atteinte, touchée par l'exposition à la violence. Une violence qu'ils fuient parfois, ils sont 47 millions à avoir été déplacés fin 2023. Cette année, l'intensification des conflits a accru les déplacements, notamment en Haïti et au Soudan. C'est une année record. Selon l'UNICEF, les conséquences des conflits sur les enfants ont atteint des niveaux dévastateurs. Les enfants constituent 30% de la population mondiale, mais représentent environ 40% des populations réfugiées.
Elisa Robuchon, il est 19h06 en temps universel. Veille d'investiture présidentielle en Géorgie. Le footballeur Mikhail Kavelashvili doit prendre ses fonctions demain. Il a déjà été adoubé par le rêve géorgien, parti pro-russe au pouvoir. Une investiture vivement contestée aujourd'hui. Des milliers de manifestants pro-européens se sont rassemblés à Tbilissi. Parmi eux, la présidente Salomé Zourabichvili. Certains ont formé une longue chaîne humaine enveloppée dans des drapeaux géorgiens et de l'Union européenne. La Géorgie est plongée dans une crise politique depuis les législatives d'octobre remportées par le rêve géorgien. Depuis, le parti est accusé par l'opposition de repousser l'adhésion du pays à l'Union. Direction les États-Unis à présent, avec ce triste record, plus de 770 000 personnes sont sans abri, c'est 18% de plus que l'année dernière. La hausse du nombre de familles avec enfants qui vivent dans la rue inquiète notamment les autorités, une réalité due en partie à l'inflation et à la flambée des loyers, Loubna Anaki.
Les chiffres révélés par le département du logement sont sans doute en deçà de la réalité, car le rapport ne prend pas en compte les personnes qui logent chez des proches ou dorment dans leur voiture, ce qui est sûr, c'est que le nombre de SDF est en hausse dans le pays, particulièrement dans des États comme la Californie. 18% de SDF en plus par rapport à 2023, une tendance à la hausse qui touche notamment les familles. Une situation de précarité qui, selon les autorités américaines, serait due aux arrivées massives de migrants, au manque de logements abordables et à la fin des protections mises en place durant la pandémie de Covid. Les catastrophes naturelles qui ont frappé le pays et laissé des milliers de personnes sans logement jouent également un rôle. Cette situation met aussi en avant les disparités raciales et sociales dans le pays puisque la communauté noire est particulièrement affectée. La lutte contre le problème des sans-abri est l'un des sujets qui divise le plus la classe politique américaine, les démocrates étant partisans de la mise en place d'un système d'aide élargi alors que les républicains plaident souvent pour diminuer le budget alloué à ces programmes. Loubna Anaki, New York, RFI.
Toujours aux États-Unis, Donald Trump s'oppose à la suspension de TikTok. La Cour suprême américaine menace de suspendre le réseau social qu'elle soupçonne de transmettre des informations au gouvernement chinois. François Bayrou décale d'un jour son déplacement à Mayotte. Il arrivera finalement sur l'archipel lundi et non dimanche, comme prévu initialement. Le temps d'apporter des solutions concrètes, fait savoir Matignon. Le Premier ministre sera accompagné de plusieurs membres de son gouvernement. Font partie du voyage Manuel Valls, ministre des Outre-mer, ou encore la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. Déplacement trop tardif, écrit critiqué par l'opposition, notamment le chef des socialistes Olivier Faure qui reproche à François Bayrou de ne pas s'être rendu immédiatement sur place. Il y a deux semaines, le cyclone Chido a frappé Mayotte de plein fouet, détruisant une grande partie de l'île de l'océan Indien et entraînant la mort de 39 personnes, un bilan toujours très incertain. Et puis, avant de refermer votre journal, des nouvelles du Vendée Globe, Johan Richom fait toujours la course en tête, il a même doublé son avance sur son premier poursuivant, près de 90 000 nautiques devant dans Charlie Dalin. Après avoir passé le mythique Cap Horn, les deux navigateurs ont entamé la remontée de l'Atlantique. RFI, il est presque 20h10 à Paris, une heure de moins en temps universel.